بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. On devait normalement aujourd'hui parler de ce qui efface les péchés et les choses qui nous facilitent justement à enlever les péchés. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Je fais des péchés, est-ce qu'Allah il peut me les pardonner ou pas? S'il me les pardonne, comment se faire pardonner les péchés? Ça c'est ce qui était prévu. Mais il y a toujours des imprévus dans la vie. Donc aujourd'hui j'ai changé un peu mon thème. Le thème aujourd'hui c'est pas vraiment un thème, c'est on va dire une sorte de suivi de votre ramadan. Voir un peu comment il va. Il est en bonne santé, il est malade, il est fatigué. Est-ce que le ramadan il a la forme ou le ramadan il a besoin de remède? Ça c'est vous qui allez pouvoir me le dire. Donc, j'ai besoin de vous rappeler d'abord quelques petits hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le croyant il est comme ça, il oublie. Wa summiya al-insan li'annahu yansa. L'être humain il a été appelé insan et ça vient du mot nisyan, de l'oubli. On oublie beaucoup. C'est pour ça qu'Allah dit « وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرْ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ » Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Ça y est. Je vais vous rappeler déjà le bienfait de vous regrouper dans la mosquée. Beaucoup de gens viennent à la mosquée, ils ne savent pas les hasanat qui gagnent. Et quand tu rappelles, tu remotives la personne. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Quand on te dit « tu vas bosser toute la journée », tu as 50 euros, 60 euros au bout de la journée. Tu es motivé dans la journée, tu sais qu'à la fin, il y a un salaire. Et quand tu viens à la mosquée et qu'après ça devient une routine et que tu oublies la récompense que tu as, et bien justement le shaitan il te rentre par là pour te dire c'est plus la peine de venir, de toute façon tu gagnes rien. Non mon frère. Déjà comme le prophète nous a dit, chaque pas que tu fais envers la mosquée, il y a un pas qui t'efface un péché et un pas qui fait quoi? Qui t'élève un degré au paradis. Ça y est. Le mérite de rester comme ça là, de parler d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Le prophète sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu qu'Allah Azza wa Jal a des anges qui parcourent la terre entière. Allah Azza wa Jal, il a des anges qui sont chargés de plusieurs tâches. Il y en a parmi eux qui sont chargés par exemple de la pluie. Assalamu alaikum. Il y en a qui sont chargés de la pluie comme qui s'appelle l'ange Michael. Il y a des anges qui sont chargés de la porte de l'enfer, de la porte du paradis comme on a Malik Redouane. On a l'ange qui est chargé des révélations, Jibril alayhi salam. On a l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, Israfil. On a beaucoup de noms comme ça. Et parmi eux, on a une catégorie d'anges qui cherchent les endroits où on parle d'Allah. Ça y est, quand ils trouvent ces endroits, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appellent les uns les autres, ils disent venez, venez, on a trouvé ce que vous cherchez. Ils sont là, ceux qui parlent d'Allah. Et ils commencent à nous entourer. Et ils se mettent l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, jusqu'au-dessus des sept cieux. Et Allah Azza wa Jal leur pose la question alors qu'il sait mieux. Il leur demande, comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Ils disent, non, on les a trouvés en train d'écouter un dash à la mosquée, dans un cercle d'évocation. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent le paradis. C'est ça ce qu'ils répondent les anges. Voilà, c'est pas ça. Cherchez le paradis. L'ont-ils vu? Non, par non, y a Allah, ils l'ont pas vu. Et s'ils l'auraient vu, comment ils seraient? Imagine-toi, tu vois le paradis, tu serais comment? Tu sortiras pas de la mosquée. Enfin, ils ont dit, s'ils l'auraient vu, ils seraient beaucoup plus attachés aux adorations que maintenant. Et de quoi ils cherchent protection? De l'enfer. L'ont-ils vu? Non. Et qu'est-ce qu'ils feraient s'ils la verraient, l'enfer? L'enfer, voilà, Ayyadu Billah. Châtiment très très dur que beaucoup de gens, hélas, sous-estiment l'enfer et pensent qu'ils peuvent assumer l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est un peu de feu? De toute façon, j'ai dit, la ilaha illallah, je vais aller au paradis, un jour ou l'autre. Hein? Fais-moi plonger en enfer un million d'années, de toute façon je connais mon résultat. Il a dit, tu supportes pas de mettre ton doigt sur une bougie une minute et t'acceptes de mettre tout ton corps en enfer dans un feu qui est multiplié par 70 de celui de la dunya, comme l'a dit le prophète sallam. Enfin déjà, ils sont au taïf. Ils cherchent quoi? Ils cherchent la protection contre l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit, je vous prends pour témoin aux mes anges que je leur ai pardonné tous leurs péchés. Voilà. Ça c'est la première récompense que tu as eu à Sidi Karim. Tu es venu à la mosquée, Allah il t'a pardonné tous les péchés juste parce que tu écoutes un petit peu, tu écoutes les paroles d'Allah et ton messager sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est tout? Quelle est la plus grande récompense? C'est quoi l'acte qui a plus de récompense dans l'islam? Dites-moi. Non? La prière à la prescrite. Mais encore, il y a des actes comme ça qui ont énormément de valeur et le prophète l'a bien tué dans des hadiths. Mais il y a Abdul Amal de l'islam. Tout le monde participe à le faire. Non? Nourrir le pauvre, mais encore. Zakat, mais encore. Barakallah, mais encore. L'imam Billah. Allez, on rajoute. Je sais que quelqu'un va le dire. Il y a une chose très importante dans ta vie que tu dois faire. Très bien, barakallah, tchiki. Champion du monde. Donc le frère, il vient nous dire le pèlerinage. D'accord? C'est un grand mérite le pèlerinage. Le prophète Hassan il dit, celui qui fait le pèlerinage, il revient comme un nouveau-né chez lui. Hein? Et il dit Al-Hajj al-Mabrur, laïs al-Lahu jaza, illa al-Jannah. Le vrai, le Hajj bien accompli, il n'a pas d'autre récompense à part le paradis. Taïf. La récompense du Hajj, elle est énorme. Tu reviens comme un nouveau-né. Est-ce que vous savez tous là que maintenant vous avez la récompense d'un Hajj tout de suite? Non, frère, s'il te plaît, faut pas déconner, on n'a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que tu nous racontes? Comment on a la récompense de Hajj? On est à la mosquée, il n'y a pas de Kaaba autour de nous, on n'est pas à Mecca, qu'est-ce que tu nous dis là? C'est pas moi qui dis, écoutez le hadith. Alors, l'imam al-Mundiri, fi sahih al-Targhib al-Targhib, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal. J'ai dit, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal. Un peu plus fort, ça serait bien. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من غزا إلى المسجد كي كنت غالى مسكين écoutez bien لا يريد إلا أن يتعلم خيرا et qui n'a comme intention que d'apprendre du bien أو يعلمه ou de l'enseigner à quelqu'un. Donc t'es venu soit pour apprendre à la mosquée soit pour l'enseigner. Écoutez bien. كان له كأجر حاج تَمَّنْ حَجَّتُهُ Allah Akbar. Subhanallah. Le prophète en salam dit, quiconque vient à la mosquée avec l'intention d'apprendre ou d'enseigner à quelqu'un, il retourne chez lui avec la récompense d'un pèlerinage complet accompli. Voilà. Deux très très grandes récompenses, ils sont ceux qui font le pèlerinage à Drancy. Il n'y en a pas beaucoup. La mosquée elle est vide, c'est par où est-ce que ça se donne. Vous savez, les frères, il faut que vous soyez conscients que d'être vivant pendant ce mois-là, c'est une grande ni'ma. Beaucoup de gens ne voient pas la faveur qu'Allah a donnée à chacun sur le fait juste d'être vivant pendant ce mois-là. T'es vivant pendant le mois du Ramadan, c'est un très très grand cadeau de Dieu. Un très grand cadeau qui mérite un remerciement. Pourquoi ? لِأَنَّ مِنْ أَمْرَاتِ حُبِّ اللَّهِ أَنْ يَرْزُقَكَ اللَّهُ طُولَ عُمْرٍ مَعَ حُسْنِ عَمَلٍ. Car Allah, quand il les signes de l'amour d'Allah de l'être humain, c'est quoi? C'est qu'il lui donne une longue vie, et dans cette longue vie-là, que des bonnes actions. Il fait que des bonnes actions. Et ça, c'est ce qu'il a dit au prophète sallam dans le hadith que rapporte l'imam al-Tirmidhi. Ça a la rage du Nabi sallam. Un homme a questionné le prophète sallam. قال له أي الناس خير? Quels sont les meilleurs gens? C'est qui les meilleures personnes? قال صلى الله عليه وسلم. Vous êtes fâché contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont faim. D'accord. On vous n'insiste plus. Mais quand même, un peu plus. Si c'est un match de foot et je vais entendre des bruits dans la mosquée, je dois me boucher les oreilles. Donc, il a dit, les meilleurs gens, n'amtala amruhu wa hasuna amalu. La meilleure personne, les meilleurs gens, c'est ceux qui vont vivre longtemps et vont faire beaucoup de bonnes actions. Toute sa vie, il sera dans les bonnes actions. Ça c'est les meilleures personnes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau d'Allah d'être vivant. Combien de personnes on les a vues l'année dernière, ils étaient avec nous, le Ramadan et cette année ils sont plus avec nous. Pendant ce mois-là même, il y en a, ils l'ont pas terminé avec nous. Je sais pas si vous étiez là quelques nuits avant, j'ai raconté l'histoire d'un jeune de mon quartier qui est mort, rahimahullah. Il était avec ses amis devant un grec à 1h du matin, ils sont partis acheter à manger et ils étaient 6. Un homme est passé, un jeune homme il est passé, et il a crié, hé les gars! Ils se sont retournés, et avec son pistolet, il a tiré 5 fois, et il a touché que ce jeune-là. Ça s'est passé la semaine dernière. dans le 19e arrondissement. 5 balles, il se les a mangés dans le ventre. Ses amis étaient à côté de lui et parmi eux avait son petit frère. Imaginez-vous, il voit son frère mourir devant lui. Tu vois ? Enfin, c'est pour te dire que la mort, elle peut venir à n'importe quel moment. Et on le dit toujours aux jeunes, la mort, elle ne prévient pas. La mort, elle ne t'envoie pas un recommandé, elle te dit j'arrive dans pas longtemps, ou un email ou un SMS. Et la mort, c'est un verre amer que tout le monde va boire. Personne ne va y échapper. Petit, grand, riche, pauvre, femme, homme. Que tu sois aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Afrique, tu seras touché par la mort. Le problème, comme on dit tout le temps, le problème, c'est pas la mort en elle-même. Le problème, c'est ce qui va après la mort. Après la mort, comment ça va se passer ? Sachant que la tombe, c'est la première station du jour du jugement. Ça commence. C'est soit une porte du paradis qui s'ouvre dans la tombe, soit une porte de l'enfer. Et sache que ta destinée, c'est toi qui l'as choisie. C'est entre tes mains. Est-ce que tu vois toute la journée un diable qui te tire et te dit « Vas-y, viens, drague-la » ou un ange qui te dit « Allez, va à la mosquée ». Personne qui te tire. C'est tes pieds qui bougent tout seul. C'est vrai ou c'est faux ? T'es libre. Tu vas me dire « Oui, mais je suis pas vraiment libre. » Parce que vous connaissez l'histoire de le destin, là. On la sort tout le temps. Comment je suis libre, mon frère, alors qu'Allah, il a tout écrit ? On l'entend tout le temps des jeunes. Les jeunes, ils disent « Toi, tu nous dis qu'on est libre. » D'accord ? Mais Allah, avant qu'il nous crée, c'est ce que tu nous avais dit la dernière fois, il sait déjà notre destination. Est-ce que c'est l'enfer ou le paradis ? Donc s'il sait déjà, c'est l'enfer ou le paradis notre destination, c'est que ce que je fais, c'est normal. Et c'est qu'aussi, ça sert à rien qu'on m'a créé, qu'on m'emmène au paradis ou à l'enfer directement. On répond quoi, les frères ? Vous ne battez pas, hein, pardon. Personne répond, c'est pour ça. Vas-y, sois dans mon cas. Non ? Non ? On va éclaircir ça d'une manière beaucoup plus simple. T'as bien compris, voilà, Clofi. Regardez les frères. Supposons la logique des gens qui tout le temps sont en train de dire « Ouais, mais je comprends pas. Qu'est-ce que je fais sur Terre alors ? Pourquoi je suis pas gâché dans mon paradis ? Ça sert à quoi que je suis là ? Ah là, il connaît mon résultat. Ça sert à rien, je suis là. Mais c'est porteur, tout ça, oui, mais pourquoi vrai ? Il connaît déjà le résultat. Bah écoute bien. Si toi, t'as jamais été créé, et qu'on te prend, t'emmène au paradis, et t'es là, tu baignes dans l'or, Hawl al-Ain, les plaisirs éternels, t'es en train de vivre ce que personne ne peut imaginer, elle est belle. Franchement, c'est la belle vie. Mais dans l'autre cas, d'accord ? L'autre cas, c'est on t'a jamais créé, et au lieu de te prendre, on va t'emmener au paradis, on te prend, t'emmène en enfer. La première question que tout être humain va poser, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ici ? Allah, il va te dire, mais comme je suis savant, je sais que si t'aurais été sur Terre, t'aurais fait telle chose. Tu vas lui dire, oui, mais non, y'a Allah. Justement, non, laisse-moi une chance, tu vas voir toi-même. C'est pour ça qu'Allah nous donne cette chance-là. Vous êtes vivant, vous voyez vos actes, le jour du jugement, personne n'a d'excuses. C'est bien compris ? On a débloqué un point ? Alhamdulillah. Le mois du Ramadan, quel est son objectif ? Ben, pas manger, comme ça on sent la douleur des pauvres. C'est un parmi les objectifs, c'est pas le principal. C'est nettoyer le ventre. On jeûne comme ça, tu vois, on purifie le ventre. C'est un parmi les objectifs, c'est pas le principal. Ben c'est quoi le principal objectif, mon frère ? On ne le connaît pas. Vous allez m'aider, vous allez me dire, Inch'Allah. Non ? Al-Ihsan. Al-Hasanat. Ouais. C'est pas vraiment ça. Oui, mais il y a un mot. On veut ce mot. Voilà, classique. Encore. Attends, t'es en train de dire qu'il n'y a pas de chétan pendant le Ramadan ? Tu vois comment on fait douter la personne rapidement ? Oui, il n'y a pas de chétan, mon frère, il n'y en a pas. Regarde, déjà pour l'histoire du chétan, on va y revenir après tout à l'heure, Inch'Allah. Parce que beaucoup de gens disent comment ils sont enchaînés et je suis un double chétan pendant le Ramadan. Comment ils sont enchaînés et je fais des péchés que je faisais avant le Ramadan ? On va y arriver après, Inch'Allah, sur cette question-là. Le but du Ramadan, Allah l'a dit dans Sourate Al-Baqarah, قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله فيكم لعلكم تشربون تلعبون تنامون تأكلون تتقون le but c'est ça écoutez bien Dieu dit au vous qui avez cru Ibn Mas'ud radiallahu anhu il disait quand tu entends cet appel prête bien ouvre bien tes oreilles car c'est soit un ordre qu'on va t'ordonner d'accord c'est un bien qu'on va t'ordonner ou un mal qu'on va t'interdire dès que tu entends au vous qui avez cru ouvre grand les oreilles et apprête-toi à accueillir ce message on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs les religions d'avant ils jeûnaient aussi pourquoi ainsi atteindrez-vous la piété la piété tu sais après on veut que tu nous détailles un petit peu la piété d'accord c'est mon thème aujourd'hui c'est quoi exactement la piété on veut comprendre comment devenir quelqu'un de pieux c'est quoi les caractéristiques des pieux qu'est-ce qu'un pieux un pieux c'est quelqu'un qui ne fait pas de péché c'est pas trop ça parce que tout le monde fait des péchés c'est le prophète Hassan qui l'a dit كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون d'accord donc c'est quoi un pieux écoute un peu Allah nous a dit dans un autre verset donc on a dit quoi on a dit que le jeûne il a pour but d'atteindre la piété d'accord but numéro 1 c'est quoi pas la douleur des pauvres c'est atteindre la piété transformer l'être humain en étant un être pieux quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jalla comme il faut طيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله d'accord حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون vous les croyants vous qui avez cru craignez Allah comme il doit être craint comment il doit être craint Ibn Mas'ud radiallahu anhu il nous explique ce mot là حق التقوى comme il doit être craint ça se voit dans trois choses أن يطاع فلا يعصى c'est que tu lui obéisses et que tu ne le désobéisses pas c'est comme ça que tu crains Allah la deuxième chose أن يذكر فلا ينسى c'est que tu te souviennes de lui et que tu ne l'oublies jamais Allah وما كان ربك نسيا Allah lui-même déjà il oublie personne toi tu dois ne pas l'oublier aussi pourquoi parce qu'à partir du moment où on l'oublie qu'est-ce qui se passe l'insouciance je ferme les yeux je fais ce que je veux et je joue le mec libre dans ma vie alors que tu n'es pas libre mon frère tu es un adorateur d'Allah comme le frère notre imam nous a dit ça hier vous rappelez beaucoup de gens disent nous on est libre on fait ce qu'on veut le musulman il n'est pas libre il fait que qu'Allah et son prophète en salam nous ont ordonné dans cette dunya même tu n'es pas libre t'es pas libre de faire ce que tu veux t'es pas libre de rouler en ville à 80 km/h on prend ton permis t'es pas libre de dépasser ton forfait et de faire un hors forfait sur le téléphone et si tu fais chaque minute elle t'est comptée ou pas c'est pareil mon frère celui qui va te rendre des comptes c'est celui qui laisse aucun atome passer le jour du jugement quiconque fait un atome de bien le verra et quiconque fait un atome de mal le verra un atome c'est plus petit qu'une poussière t'imagines et beaucoup de gens font des choses des péchés des catastrophes et ils oublient et ils pensent qu'Allah a oublié alors qu'Allah a dit Ahsahullah wa nasuh Allah a écrit et ils l'ont oublié on fait des choses et on oublie et on ne se repent pas et on pense que c'est bon on est en sécurité il ne faut pas s'inquiéter moi il peut rien m'arriver le jour du jugement il dit la première chose c'est que tu obéisses à Allah et que tu ne le désobéis pas deuxième chose que tu te souviennes de lui et que tu ne l'oublies pas et troisième chose an yushkar c'est que tu le remercies et que tu ne sois pas comment ingrat envers lui ces trois choses là te facilitent déjà une porte vers la piété il y a beaucoup de définitions que les compagnons ont données il y a celle aussi d'Ali ibn Abi Talib qui a dit c'est la crainte du Seigneur c'est ça la piété c'est que tu aies peur d'Allah en permanence et ça c'était la recommandation qu'Allah a donnée au prophète et tous les prophètes Allez, taqullah, craignez Allah. La première chose, c'est que tu craignes Allah, comme l'a dit Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Al-khawf min al-jalil. Ou al-amal bit-tanzil. Al-amal bit-tanzil, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna. Thalithan, al-ridha bil-qalil. c'est de se satisfaire du minimum qu'Allah t'a donné. D'accord ? C'est-à-dire, je fais ma journée, je gagne 50, je gagne 20, je gagne 100, alhamdoulillah ala kulli hal, je ne me plains pas. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme est étrange l'affaire du croyant, toutes ses affaires sont bien. Et ça, c'est valable que pour le croyant. Si le croyant, écoutez bien, il lui arrive un bien qu'il remercie, cela vaudrait mieux pour lui. Et s'il lui arrive un mal, qu'est-ce qu'il fait ? Il se plaint ? Non, qu'il patiente, cela vaut mieux pour lui. Donc le croyant, il est entre deux choses dans sa journée, entre patienter et remercier. Mais se plaindre, dire Allah pourquoi t'as fait ça, c'est injuste. Pourquoi mon frère il est mort entre les six et les autres non ? Ça c'est interdit. C'est interdit de dire ça. Pourquoi ? Parce que t'es en train de dire quoi ? D'une manière indirecte, c'est injuste ce qui a été fait. Alors qu'Allah, il est juste. Subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, Ar-rida bil-qalil, se satisfaire du peu. Et dernière chose, al-isti'adad liyawm ar-rahil, le fait de te préparer pour le voyage de l'au-delà. Chaque être humain doit préparer ses bagages. Vous êtes sur une terre éphémère, et une terre éphémère, et deuxième chose, vous êtes de passage. Vous êtes de passage. Un jour ou l'autre, vous allez tous retourner dans votre pays natal, al-Jannah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة. Sachant que ça c'est pas mon pays, mon vrai pays il est au paradis, donc là je suis un passager, je suis quelqu'un de passage, un voyageur. Un voyageur quand il passe dans un pays, il lui accorde l'importance ou pas ? Jusqu'à même récemment ils ont fait ressembler à ça comme quoi celui qui accorde l'importance à la dunya c'est comme s'il essayait de construire une maison sur une vague. Qu'est-ce qu'on dit de lui ? Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu construis une maison sur une vague ? Normal, construire ça sur un endroit qui est stable, et eh ben la stabilité elle est où ? C'est le Jannah. Donc, tu remarques aussi que le prophète nous a dit dans le hadith, « Ittaqillah haythumma kunt » « Crains Allah où que tu sois. » Parce que beaucoup de gens disent, mais craindre Allah, la piété c'est où ? C'est à la mosquée seulement ? Ou c'est à la maison ? C'est dans la rue ? C'est dans l'école ? C'est pas facile à l'école. Il y a beaucoup de voyous, il y a des non-musulmans. C'est pas facile au boulot. Il y a beaucoup de fitness, des filles, tout ça. C'est pas facile dans tel endroit. Non, tu dois craindre Allah partout. Crains Allah où que tu sois. C'est qui dit ça ? C'est le prophète en fait. Et taqillah haythumma kunt. D'accord ? Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Et fais suivre la mauvaise action de la bonne action qui l'effacera. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Donc, l'être humain, il fait très attention. Pendant ce mois, comment faire pour être un muttaqi ? Comment faire pour être quelqu'un de pieux ? Comment ? On va parler un petit peu de ça. Mais avant de parler de ce point-là, j'aimerais juste que tu saches qu'Allah Azza wa Jal, il est tout le temps en permanence avec les pieux. Et il les soutient. Par la ta'ala, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wa ladhina hum muhsinun. Allah est avec les pieux et ceux qui sont bienfaisants. Et Allah Azza wa Jal dit, Wa man yattaqillah. Vous savez, beaucoup de gens me disent tu sais, j'aimerais bien faire la prière à l'école, mais j'arrive pas à trouver l'endroit. J'aimerais bien prier dans mon boulot, mais c'est pas facile. J'aimerais bien esquiver les filles quand ils me font la bise, mais c'est pas facile. Là, je parle pour les jeunes, hein, les papas, ça, ils sont tous mariés, ils ont tous problèmes. J'aimerais bien arrêter de fréquenter les gens qui fument du shit, tout ça, mais j'arrive pas. J'aimerais bien me fréquenter. Pour les sœurs, une fille qui parle un peu d'Allah et qui parle pas que de mode, de mec et de trucs comme ça, je trouve pas. Crains Allah, Allah te facilite une issue. Wa man yattaqillah, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui ouvre une porte par laquelle il va passer. Tu trouvais pas d'endroit pour prier, hop, une porte est ouverte. Et subhanallah, on m'a raconté dans des endroits, comme par exemple c'était le cas en Égypte, un frère il dit, dans une université complète, il n'y avait pas une mosquée. Et c'est un pays musulman, l'Égypte. Une université, en règle générale, il y a une mosquée. Il dit, on était deux, trois frères, on a dit, bon, comment on fait là ? On va pas rester pendant 4 ans dans cette université et il n'y a pas de mosquée. Ils sont partis voir les responsables, leur ont dit, on veut une mosquée. Ils ont dit, non, laissez tomber, comment on va la construire ? Alors qu'ils avaient du terrain libre dans la mosquée. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient trois. Ils ont dit, allez, on est dans la cour là, fais l'adhan. Et il y en a un, il est venu, il a fait l'adhan. Ils ont commencé à les regarder, ils ont dit, mais ils sont déglingués ces jeunes, là, qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est la mosquée, pas aller loin, mais pas ici. Et ils ont commencé à faire la prière pendant à peu près une semaine à trois. Personne ne restait avec eux. Deux semaines après, ils étaient 500. Deux semaines après, 500. Trois semaines après, voire un mois, ils ont vu que le nombre était incroyable, ils ont reconstruit une mosquée. Vous voyez ? Crains Allah, Allah te facilite une sortie. Hatim al-Asam, un parmi nos ancêtres, un parmi les pieux prédécesseurs, il était d'une famille très très modeste, pauvre, pas beaucoup d'argent. Une fois, il est sorti voir ses amis, et ses amis étaient en train de parler du pèlerinage, du Hajj. Il leur a dit, ah, comme vous m'avez donné envie d'aller au Hajj. Il est parti à la maison, il leur a dit, il a appelé toute sa famille, ses enfants, sa femme, il leur a dit, voilà, je prends votre avis, j'ai envie d'aller au pèlerinage. Ils lui ont dit, déjà, non seulement, t'as pas d'argent, on a du mal à vivre, et tu veux nous laisser en plus aller au pèlerinage sans argent, sans rien du tout, sans que qui va dépenser pour nous, qui va nous ramener la nourriture à la maison. La petite, la plus petite de la famille, elle a dit, papa, pars. Elle a dit à toute sa famille, sachez que c'est pas lui qui donne, c'est lui qui donne la subsistance, c'est Allah. La plus petite, hein. Elle a dit, pars papa, pars. Tu crois qu'Allah il va nous oublier? Tu crois que c'est toi qui nous ramène à manger ici? Tout ça c'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pars et t'inquiète pas pour nous. Et ils ont concerté la famille, et finalement la parole de la petite, elle les a touchés. Donc ils sont partis. Il est parti au pèlerinage. Deux jours après, la nourriture de la maison se termine. Et ils commencent à se regarder les uns les autres. C'est à cause d'elle. C'est elle la coupable. Viens ici. Pourquoi tu nous as dit ça? Regarde à cause de toi maintenant, regarde. Tu nous as mis dans un état très très misérable, je sais pas quoi. Ils ont commencé à la blâmer, lui crier dessus. Elle leur a dit, mais j'y suis pour rien. Ça c'est le destin, c'est le tabac. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Si tu n'aurais pas parlé, je serais resté ici. Vous connaissez comment ça se passe dans une famille quand ça chauffe, hein? Et après, elle est rentrée dans sa chambre pleurer et elle a levé les mains au ciel. Elle a dit, Allah, ne m'humilie pas devant ma famille. Fais en sorte que je ne sois pas rabaissé. Aide-nous. Porte-nous secours. Le père, il a craint Allah Azza wa Jal, et il est parti. Il est parti faire quoi? Farida. Un acte obligatoire dans l'islam. Une fois dans la vie, obligatoirement. Après, tu le refais, c'est surrogatoire. Il a eu peur d'Allah, il est parti. Et elle l'a aidé. Tu vois? Donc, normalement, Allah, il lui facilite une issue. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours, même pas quelques heures après, le roi de la ville, il passe à côté. Et Allah Azza wa Jal fait en sorte que ce roi commence à avoir très très soif. Et où ça? À côté de la maison de Hatim al-Asam. Donc il dit, frappe à cette porte là, allez demander de l'eau parce que j'ai soif. Il va frapper à la porte. On ouvre, une petite fille. Elle lui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau. Ils lui ont ramené un verre bien propre, bien nettoyé, avec de l'eau très très fraîche. Il a bu et il a senti que c'était le meilleur verre d'eau qu'il a bu de sa vie. Après avoir enlevé ce verre de là, il leur dit, Baytou man hada, c'est la maison à qui ça? Ils ont dit, c'est la maison à Hatim al-Asam. Il a dit, Hatim al-Asam, cet homme pieux là qu'on entend parler de lui? Il a dit oui. Il a dit, il est où qu'on le remercie pour cette eau là? Il est parti au pèlerinage et il nous a laissé. Il vous a laissé? Il a dit, il m'est interdit de partir sans vous remercier. Il a mis sa main dans sa poche, il a pris un sac de pièces d'or et il l'a jeté à la maison. Subhanallah. Et après, il s'est retourné vers tous les gens qui travaillaient avec lui, il leur a dit, quiconque m'aime, qu'il fasse la même chose que je viens de faire tout de suite. Subhanallah. Et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont sorti de leur poche des paquets de pièces en or et l'ont jeté chez lui, jusqu'à ce que la maison s'est remplie de pièces d'or. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ça, ça demande quoi? يَقِينَ بِاللَّهِ. Ça demande une certitude en Allah. Ça demande un cœur et une foi qui ne doute pas en Allah. Ça demande un cœur qui, quand il fait un pas pour la religion, une sœur qui commence à mettre le hijab, elle dit pas, oui, mais si je le mets, il va m'arriver. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu peux pas faire un pas vers Dieu et que des portes de malheur s'ouvrent. Il se peut qu'Allah t'éprouve pour voir ta foi et ta patience. Mais c'est quoi? Quelques jours, quelques heures. voire aller quelques mois, et après ça y est, c'est terminé. Et le croyant, jusqu'à la fin de sa vie, il a des épreuves. Et vous savez, les épreuves, c'est un signe qu'Allah nous aime. Pourquoi? Parce que l'être humain, il fait des actes. Des fois, il fait des bonnes choses, et des fois, il fait des mauvaises choses. Allah subhanahu wa ta'ala veut te faire parvenir à un niveau de paradis que tes actes ne méritent pas. Donc Allah t'éprouve pour te faire pardonner des péchés que tu n'arrives pas à effacer toi-même, pour te faire atteindre ce niveau. Vous comprenez maintenant l'épreuve, comment c'est bien? Quand quelqu'un est malade, comme Abu Darda, on a vu ça il y a quelques semaines, il disait, j'aime trois choses. J'aime la pauvreté, la maladie et la mort. Quelqu'un ne sait pas, franchement, vous avez entendu quelqu'un dire j'aime ces trois choses-là? La pauvreté, pourquoi? Parce que quand je suis pauvre et qu'il m'arrive un bien, je suis très très reconnaissant. Alors que celui qui est riche, des fois il oublie de remercier tellement il a. Deuxième chose que j'aime, la maladie. Pourquoi? Parce que c'est là où je me rapproche le plus d'Allah. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dès que t'es malade, ton premier réflexe, c'est Ya Rab, si tu me guéris, je lâche plus la mosquée. Ya Rab, si tu me guéris, je vais prendre le Coran. Et dès qu'il est guéri, il est au 2004 en train de manger un pickle. Il est au stade de je sais pas quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il oublie, c'est fini. C'était juste une période, après c'est un petit truc provisoire. Et troisième chose qu'il aime, c'est la mort. Ils l'ont demandé pourquoi tu aimes la mort. Il a dit car la mort me fera rapprocher de mon Créateur. C'est un rendez-vous que j'attends depuis très longtemps. Et vous savez, le meilleur cadeau qu'on va avoir, Inch'Allah, dans le paradis, c'est pas le paradis, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jalla, le Créateur. Allah Azza wa Jalla, yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. C'est le plus beau cadeau que le croyant aura, c'est le Jannah. Assalamu subhanahu wa ta'ala, la yuhrimna min hada. Donc, il est parti, ce roi, et la maison s'est remplie d'or. Donc, akhifillah, et certitude en Allah, et confiance en Dieu, et confiance en lui, tu gagnes. Et confiance. Et si tu demandes, comme Allah, le prophète en a dit à Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans le hadith, il lui a dit, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Si tu demandes, demande à Allah. Ton premier réflexe, dès qu'il t'arrive une chose, demande directement à Dieu. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Et si tu recherches secours, recherche secours auprès d'Allah. Ne te dirige pas directement vers les créatures. Va pas directement voir ton ami, ton frère, ta mère. Allah, en numéro 1, aqidat al-muslim, il faut qu'elle soit solide. Croyance du croyant doit être très dure, très ferme. Pas de doute qui rentre dedans. Pas de personne qui dit, est-ce qu'Allah il est capable de nous ressusciter? Est-ce qu'Allah il est capable? Est-ce qu'Allah il est capable? Ça, c'est des paroles de kouf. Le musulman, il dit jamais ça. Par ignorance, il peut le dire. Mais il faut qu'il essaye d'enlever ça au maximum. Taïb, le mois du ramadan, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Première particularité, ce mois-là, Allah Azzawajal a fait descendre pendant ce mois, quel livre? Al-Qur'an. Shahru ramadan, alladhi unzila fihi. Al-Qur'an, le mois du ramadan, où Allah a descendu le Coran. C'est le seul livre qui est descendu pendant le mois du ramadan. C'est peut-être une surprise pour la plupart d'entre vous. Sachez que pendant ce mois-là, Allah a révélé tous les livres. Attends, frère. Quand tu parles, s'il te plaît, tu nous rapportes des preuves. Sinon, c'est pas la peine. Nous, ces choses-là, ils ne rentrent pas dans notre tête facilement. Ça veut dire quoi ce que tu nous dis? Ça veut dire que la Torah, l'Évangile, les psaumes de David, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, et le Coran ont été révélés pendant le mois du ramadan. Ah bon? C'est la première fois qu'on entend parler de ça. L'imam Ahmed a rapporté dans son Musnad, ainsi que l'imam Ibn Asakir et l'imam Al-Tabarani, que le prophète a dit dans le hadith, Unzilat suhuf Ibrahim awwal layla min ramadan. Les feuilles suhuf Ibrahim au Moussa. C'est un livre sacré. Comment il est, où il est, Allah a'lam. On sait que ça existe, ça a été dit dans le Coran. Allah, le prophète dit, les feuilles d'Abraham ont été révélées la première nuit du ramadan. Et la Torah a été révélée les 7 madat min ramadan, le 6e jour du ramadan. Ouais, écoutez bien, unzila al-injil, quant à l'évangile, unzila. Unzila al-Injil fi 13 madat min ramadan, le 13 du mois du ramadan, et bien sûr le Coran il est descendu fi laylat al-qadr, à la fin du mois du ramadan. Donc Ce mois-là, il a comme privilège que tous les livres sacrés ont été révélés pendant ce mois. D'où l'importance justement des religions, d'où l'importance justement de l'islam. Inna dina 'indallah al-islam, la religion chez Allah c'est l'islam. Wa ma yattabi' ghayra al-islam dinan fala yuqbal min. Et quiconque désire une autre religion par l'islam, Allah la rejette, la refusera. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, et il se verra à la fin parmi les perdants. Le mois du Ramadan, Allah dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan a été descendu le Coran comme bonne direction pour les humains et comme preuve évidente de la bonne direction et du discernement parfait. Le Coran nous a montré halal et haram, il nous a tout appris. Il nous a tout appris. Ce livre-là n'a rien laissé. C'est le mode d'emploi de chaque jeune, adulte, vieux, homme ou femme, musulman et musulmane. C'est ça notre guide sur terre. Ce Coran, il y a tout remède et il y a tout. Toute solution à nos problèmes. Beaucoup de gens disent, ouais, j'ai des problèmes de pauvreté, j'ai des problèmes de ça, j'ai des problèmes de ça. Tout se trouve dans le Coran. Et Aïcha radhiyallahu anha rapporte comme dans le Bukhari que le Coran, le prophète Abraham, pardon, était un Coran vivant. Tellement il pratiquait le Coran et tellement qu'il l'appliquait bien comme il faut, c'était un Coran qui marchait parmi les gens. Et il n'a jamais refusé à quelqu'un quelque chose. À chaque fois que quelqu'un lui demandait une chose, il lui disait oui. Et même un compagnon rapporte que le prophète Allah n'a dit « la », ça veut dire « non », qu'une seule fois dans « kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Vous imaginez ? La seule fois où il a dit « non » de sa vie. C'est-à-dire tout le reste des fois, quand on lui demandait une chose, jusqu'à même il y avait des gens qui se comportaient très mal avec lui. Il venait le voir et le tenait par son cou, il le griffait. Un homme lui dit « ya Muhammad, a'atini min malillah, donne-moi des biens d'Allah ». Les compagnons, ils voient ça, ils commencent à sortir les sabres. Comment il touche notre prophète de cette manière ? Et le prophète il leur dit, laissez-le, donnez-lui des biens d'Allah. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour le monde. Pas pour les musulmans seulement, pour le monde entier. Pour tous les humains. Si seulement on comprenait cette religion, Wallah al-Azim, on ramènerait énormément de gens à cette religion-là. Hélas, on n'arrive même pas à ramener nos voisins. Avant de parler des voisins, nos familles. Mon frère, il prie pas. Mon père, il boit de l'alcool. Ma mère, elle ne veut pas porter le hijab et elle le combat. Ma sœur, Ahwal. Et malgré ça, ça ne bouge pas. Nos cœurs, ils ne sont pas de la jalousie ou une responsabilité envers la famille. Et tu trouves, subhanallah, que le jeune, quand il rentre dans le dîn, il prend, tu vois, une grosse charge de batterie. Et tu le vois dans la rue, ah, ça c'est haram, halal, tout ça. Il commence à parler de religion, il est motivé, il va prendre le bien aux gens. Ça en encourage, mais il oublie sa famille. Il oublie sa famille. Alors qu'Allah a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, qu'au anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui croyez, sauvez-vous vous, ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Ton premier but avant d'aller nettoyer le cœur des gens et leurs actions, déjà c'est te nettoyer toi-même, et en parallèle, tu t'occupes de ta famille. C'est pas logique qu'une personne vienne aujourd'hui, elle comprend la religion. Elle commence à mettre en pratique et elle laisse sa famille à l'ouest. Et lui, il est, alhamdulillah, à la mosquée, salat, fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, sunan, rawatib, siyam, sadaqat, Qur'an. Et ta famille, elle est où, mon frère ? Ah, ma famille, j'ai essayé une fois, ça marche pas. Une fois, ça marche pas, subhanallah. Une fois, ça y est, t'es fini, tu baisses les bras. C'est comme ça que le prophète Hassan l'a fait. T'imagines si le prophète Hassan il aurait fait ça une fois ? Un compagnon qui avant d'être compagnon justement Amr s'appelle Tufayl ibn Amr al-Dawsi, il venait d'une tribu qui s'appelait Daws. Après avoir entendu le prophète sallam et l'avoir écouté, il a converti à l'islam et il est reparti dans sa tribu pour les appeler à l'islam. Alors il appelle, les oreilles sont bouchées, il appelle, les oreilles sont bouchées. Il est reparti vers le prophète sallam, regardez ce qu'il a demandé. Maudit-les, je veux qu'ils meurent tous. Et le prophète Hassan qui lève ses mains et dit Allahumma hdi Daws. Allah guide la tribu de Daws. Ce compagnon-là, il est reparti dans sa ville, il a vu tout le monde avec converti à l'islam. Tu vois, le prophète Hassan, ce qu'il cherchait, c'était pas de maudire, c'était pas d'emmener le maximum de gens en enfer, c'était de quoi ? De les ramener au paradis. Et ça doit être le but de tous les musulmans. Tous les musulmans. De ramener non seulement les musulmans à la mosquée, Et là, dans ce paradis-là, vous savez, vous êtes dans le paradis ou pas? Le prophète me dit, إِذَا رَأَيْتُمْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous voyez les jardins du paradis, asseyez-vous. Ils ont dit, وَمَا هِيَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. C'est quoi les jardins du paradis au prophète? Il leur a dit, مَجَالِسَ الذِّكْرِ. C'est les cercles d'évocation. Là, vous êtes assis dans un jardin du paradis. La preuve, chacun d'entre vous qui a un cœur propre, il commence à se sentir bien quand il écoute les paroles. Il sent trop bien. Il y a enfin un lavage pour mon cœur. Ah, des histoires. Ah, enfin, les paroles d'Allah et du messager sont très bien. Le mois du Ramadan, ce que le prophète sallam nous rapporte, selon Abu Huraira, il dit, Dieu honoré et glorifié a dit, quand le prophète sallam dit que Dieu a dit, et que c'est pas du Coran, c'est que c'est un hadith. C'est qui l'a dit en premier? C'est toi? Il est où? Cadeau, Inch'Allah. Et toi, tu avais dit tout à l'heure pèlerinage. On ne vous a pas oublié. Donc, hadith Qudsi. D'accord? Ah, quand même. Tout travail mérite salaire. Les sœurs, ils n'ont pas de chance. C'est que les hommes. Avec, tant pis, hein, c'est pas notre faute. Donc, tout ce que le fils d'Adam fait, écoutez bien, est pour lui-même. Sauf le jeûne, il est pour moi. Vous l'avez entendu combien de fois ce hadith? Plein de fois. Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li. Ça veut dire quoi? Fa innahu li. Ça veut dire quoi? Sauf le jeûne, il est pour moi. Ça veut dire quoi? Comment Allah il s'attribue le jeûne? Vous savez pourquoi Allah il a dit le jeûne m'appartient? Parce que c'est la seule adoration que tu fais sans que l'ostentation pénètre ton cœur. Et c'est la seule adoration faite pour Allah Azza wa Jal et que personne au monde ne l'a utilisée pour adorer autre qu'Allah avec. On a déjà prié pour autre que Dieu. On a déjà donné de l'argent pour autre que Dieu. On a égorgé pour autre que Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tourné autour des tombes, on a fait plein de trucs. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'une personne jeûner pour autre qu'Allah? C'est déjà arrivé? Ni dans une secte, ni dans une religion. Jeûner, c'est que pour Allah. C'est pour moi, Allah il a dit « Illa sawm fa innahu li » Il m'appartient. « Wa ana ajzi bih » Et c'est moi qui en donne la récompense. Tu sors? Pardon. Et il dit... C'est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. Allah. Le jeûne est un bouclier. Vous le sentez? Celui qui dit où il lève la main? Non, c'est pas un bouclier? Le jeûne, Siyam, c'est un bouclier ou pas? Levez la main s'il vous plaît. Voilà, c'est un bouclier. Un bouclier, ça veut dire quoi? Un bouclier contre quoi? On n'est pas dans une guerre. C'est un bouclier contre les péchés. Tu viens voir un jeune, un petit fashion, tu lui dis, beau gosse, tu sors avec ta fille pendant le ramadan, avec ta copine? Non. Excuse-moi, c'est le ramadan. Non, quand même, un peu de respect. Un peu de respect. C'est le ramadan, faut respecter. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces questions? Tu fumes là, tout à l'heure ou pas, à midi? Mais t'as oublié que c'est le ramadan ou quoi? Subhanallah, l'Ali, l'Azim. On comprend plus rien. Les jeunes, ils ont plus peur du ramadan que d'Allah. Ajim. Étrange. Comment les jeunes y réfléchissent? C'est vrai ou c'est pas vrai? T'en vois combien des comme ça? Plein. Et là, c'est ma part qui me dit, non, moi, je fréquente pas Tanoui. Non? Qu'est-ce qui change? Ouais, je suis d'accord avec toi que le soir ça change. Mais ce qui est impressionnant à Kelkarim, c'est que toute la journée il s'est privé du halal. Et la nuit il s'autorise le haram. C'est ça qui est impressionnant. C'est que toute la journée il mange pas, il boit pas. Tu lui dis, tiens, bois. Non. Mais bois, il y a personne qui te voit. T'es malade ou quoi? Là il boit. Oh, mashallah, la taqwa. Subhanallah. Ça c'est des cœurs attachés à Allah. Y'a qui boit? Bois, il y a personne. Non, je peux pas boire mon frère. Pourquoi? Parce que c'est haram pendant le ramadan. Et vous savez, subhanallah, c'est triste à dire, hein. Vous voyez, la boisson c'est haram dans le ramadan et le shit c'est pas haram la nuit du ramadan. La cigarette n'est pas haram pendant la nuit du Ramadan. Sortir avec les filles, c'est halal, mais halal en force. Hein? La nuit du Ramadan. Jusqu'à après cet événement là de Jamel, rahimahullah, j'ai profité de l'occasion pour aller voir les jeunes de mon quartier et de leur parler. Ils se regroupent à minuit, comme ça ils restent en bas de l'immeuble, ils tiennent les murs, on sait jamais le mur il tombe ou pas. Donc je suis parti les voir, salam alaikum les frères, ah salam alaikum akhi, tu vas bien, on a un bon contact depuis longtemps. Je leur ai dit, ça va les frères, ça va très bien. Vous avez appris la nouvelle de Jamel. Vous savez, en général, dans un quartier comme Mahdi, rahimahullah, à Drancy, vous savez, après sa mort, ça fait de l'effet à Drancy. Pareil, dans le 19e, c'est le sujet de discussion de tout le monde et tout le monde est choqué. Ça, vous en pensez quoi les frères de Jamel? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Wallah, il en dit. Je parle à peu près 8 ou 10 personnes, ils sont tous comme ça en train de rouler du shit. Voilà, c'est un truc de ouf.
C'est un truc de ouf. Voilà, on va tous y passer un. T'as du feu?
Moi, je sais pas comment il faut faire après, c'est quoi le mode d'emploi, à part bien sûr la fin des deux rails, comme les guides. Ça fait rire, mais en même temps, c'est pas marrant. Parce que dans la journée, je vous ai dit, c'est interdit de boire et manger. Et la nuit s'autorise de détruire le corps et d'utiliser une chose qu'Allah et son prophète ont interdit. Allah il a dit ne vous tuez pas et le prophète il a interdit toute chose qui rend ivre. Et ça, ça a le même effet que l'alcool. C'est haram. Haram sans discussion. Non, comment tu dis haram? C'est une plante.
Ouais, d'accord, c'est une plante. C'est ça.
Donc, tu vois que ce jeune-là, pendant la journée, il ne sort pas avec les filles. C'est bien. Il ne fume pas. C'est bien. Il n'insulte pas. C'est très très bien. La nuit, le dictionnaire de gros mots il commence à sortir. Le cigarette, le shit, les filles, le téléphone. Tu veux, on va avoir. Ah non, pas en boîte, non, pas maintenant. Attends un peu que ça se finit. C'est pas maintenant. Un peu de respect quand même pour le Ramadan. Je comprends pas pourquoi il respecte le mois, il respecte pas celui qui a créé les mois. Moi, je veux quelqu'un qui me justifie ça. Quelqu'un qui a un cerveau, parce que moi j'arrive pas à la faire entrer dans ma tête. Comment il donne plus d'importance à un mois qu'Allah? C'est un livre quand même. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, le jeûne c'est un bouclier contre le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que tu diminues beaucoup de péchés. Pendant le mois du Ramadan, tu baisses le regard. Ça c'est le vrai croyant. Tu es dans la mosquée en permanence. Tu dis pas de gros mots, tu mens pas. Tu parles pas derrière le dos de quelqu'un. Tu dis pas même des blagues pour rire, hein. Même des blagues pour rire et que tu mens dedans, ça c'est interdit dans la religion.
Ah bon?
Oui, un hadith, c'est pas ma parole. C'est pas ma parole, c'est celle du prophète en salam. Et il dit, quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne, écoutez bien, de dire des choses obscènes. Des choses obscènes. Alors t'as le gars, il jeûne, ou la sœur, et quelqu'un le bouscule dans le métro ou un truc, directement il lève la voix. Mais tu t'aveugles ou quoi? Regarde en toi! Vous vous étiez un peu! Et il commence à agresser. Il a levé la voix, et juste après, le prophète me dit qu'il ne dit pas des choses obscènes et qu'il n'élève pas sa voix. Deux choses que tu n'as pas le droit de faire pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan. Et pourquoi pendant le Ramadan, on a ces hadiths, on les a pas en dehors? Parce que c'est la période de s'entraîner. Vous êtes dans un stage d'entraînement pendant 30 jours pour pouvoir être des vrais musulmans pendant un an. Pendant 30 jours, t'es en train de t'entraîner. Quelqu'un qui va faire un match de foot, Coupe du Monde dans le truc. Il s'échauffe. Il fait combien de matchs d'entraînement avant? Il peut s'entraîner pendant des mois et des mois. Et ben là, t'es en train de t'entraîner pour attaquer 11 mois. 11 mois. Comme t'as réussi à être un musulman exemplaire pendant ce mois, on te veut pareil après sa fin. Yaqul al-Hasan ibn Bashar. Écoutez bien un peu les gens, comment nos ancêtres, salaf salih, ils respectaient la langue. Et faisait très attention à ne pas dire des mauvaises paroles. Écoutez très très bien ces paroles, soyez attentifs. Yaqul al-Hasan ibn Bashar, منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. Subhanallah. Franchement, j'aime pas traduire parce que c'est trop beau en arabe, mais je suis forcé. Il dit, ça fait 30 ans, j'ai pas dit une parole. Il n'y a pas une parole qui est sortie de ma bouche auquel je dois présenter des excuses. C'est-à-dire, pendant 30 ans, il n'a pas dit une parole mauvaise qui qui doit le mener à demander pardon à une personne. C'est-à-dire quoi? Il n'a jamais fait de mal avec sa langue, il n'a jamais parlé sur d'autres quelqu'un, ni blessé quelqu'un pendant 30 ans. En un jour, on arrive à mentir combien de fois? On parle sur le dos de combien de personnes à l'école et au boulot? T'as vu ce gros-là? T'as vu celui-là, comment il ressemble à rien? T'as vu celle-là, comment elle se croit belle, mais de loin elle paraît belle et elle est loin d'être belle? Et voilà, on enchaîne des conneries comme ça. Attention, on n'apprend pas ces conneries pour aller les dire. Hein. Je te vois, tu rigoles, tu te dis, tiens, il m'a pris un nouveau mot. Non, je suis en train de répéter ce qui est dit chez les jeunes. Tout ça, c'est haram. Parler sur le dos de ton frère, c'est quoi la médisance? Dans le hadith que rapporte Ahmed, le prophète, sallam, il a été questionné sur la médisance. Il a dit, c'est le fait d'évoquer en ton frère ce qu'il détesterait entendre. Quand tu viens, tu dis, hey, t'as l'air, j'ai vu Mohamed, il est en train de fumer du shit. Il est en train de draguer une fille. Je l'ai vu, moi, je l'ai vu dans le métro. Mais qu'est-ce que tu pensais que c'est pas sa sœur? Ou qu'est-ce que tu pensais que c'est pas une fille, elle a demandé, excusez-moi, comment faire pour prendre telle ligne ou telle ligne? Pourquoi directement on met des cartons rouges aux gens comme ça? Quand on voit une fille marcher, aller dans tel ou tel endroit et qu'elle n'a jamais une réputation sale, et le jour où elle parle à un homme, hop, carton rouge, tu sors. Mais, subhanallah, vous êtes là en train de juger les gens et vous oubliez de vous juger vous-même. Vous avez oublié que vous faites des montagnes de péchés. Le prophète en salam dit, quiconque dit un gros mot a gagné 70 ans en enfer. Un gros mot. Taïf. Regarde les, excusez-moi des termes, hein, genre, j'ai même pas envie de dire, mais le plus petit, ta gueule. C'est un gros mot, c'est pas un gros mot. 70 ans en enfer. Il y en a, ils ont des combien d'années d'enfer par jour? Ça se compte pas. Ça se compte pas parce que la langue, elle a jamais été propre et ils cherchent pas à la nettoyer. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est, quand quelqu'un lui fait du mal, il répond par un double mal. Cet homme-là qui faisait partie de nos ancêtres, 30 ans, il a réussi à tenir sa langue, il n'a pas dit de mauvaise parole. Parle Abu Dhar, radiallahu anhu, un compagnon Abu Dhar, il dit, من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. Quiconque, écoutez bien, considère que ses paroles sont des actes, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, cet homme-là, s'il considère ses paroles comme des actes, il va directement s'abstenir de parler. T'imagines si tes paroles-là, c'est des actes, c'est-à-dire à chaque fois que tu dis une mauvaise parole, c'est une action. C'est une action, tu vas t'arrêter directement de faire, de parler, de dire des mauvaises choses. حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاتِ رَأَ رَجُلًا يُكْثِرُ الْكَلَامِ وَيُقِلُّ السُّكُوتِ. Parmi les savants, il y en a, ils ont dit qu'un homme parlait beaucoup et ne taisait pas beaucoup. فَقَالَ, écoutez bien, il a dit, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ لَكَ. Un homme lui a fait la reproche en lui disant, tu parles beaucoup, tu ne tais jamais. Il lui a dit, Allah t'a créé deux oreilles et une seule langue. Pourquoi? لِيَكُونَ مَا تَسْمَعُهُ دَعْفْ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. Pour que ce que tu entends, ce que tu entends soit le double de quoi? De ce que tu dis. C'est-à-dire, la personne, en vérité, si elle a deux oreilles et une seule langue, c'est pourquoi? C'est pour beaucoup entendre et pas beaucoup parler. Parce que plus on parle, plus on dit des mauvaises choses, et surtout quand ça parle pas de religion. Là, c'est un danger. On commence à parler sur lui, sur elle, sur l'autre, sur lui, sur elle, sur l'autre, et on n'en finit pas. Et Daoud alayhi salam, le prophète, il disait, parmi ses sagesses, écoutez bien, il disait, si la parole est d'argent, le silence est d'or. C'est vrai, tu trouves des fois hein, quelqu'un, il a de la guinerie, subhanallah, il a du gâteau à la fin dans la bouche, il gaspille, il parle beaucoup, il parle, pour rien du tout, jusqu'à la fin, tu dis, hey, tu peux pas te taire, en fait, tu saoules. Et bien, si la parole est d'argent, sachez que le silence est d'or. Et le prophète, en fait, il dit dans le hadith qui rapporte l'imam al-Tirmidhi, كُلُّ كَلَمْ ابْنِ آدَمْ عَلَيْهِ لَا لَهُ. Toutes les paroles du fils d'Adam sont contre lui et non avec lui. Sauf, toutes les paroles que tu prononces, elles sont contre toi le jour du jugement. Sauf, إِلَّا quoi? أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ, le fait d'ordonner le bien, أَوْ نَهِيٌ عَنْ مُنْكَرٍ, ou le fait d'interdire un mal, أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ, ou d'évoquer, se souvenir d'Allah. C'est vrai, Et c'est pour ça que le prophète sallam dit dans le hadith qui rapporte l'imam Ibn Majah, Ad-dunya mal'ouna. Ce bas monde, il est maudit. Mal'ouna, mal'ouna ma fiha. Et tout ce qu'il contient est maudit, illa, sauf. Quoi, ya Rasulallah, vite, le secours, c'est quoi? Zikrillah, barakallahu fik. Wa man walah, est-ce que si on suit, est-ce qu'il suit zikrillah? Wa aliman ou muta'alliman. Donc, les seules choses qui ne sont pas maudites dans ce bas monde, c'est quoi? C'est un zikrillah, le fait de faire du zikr, de se rappeler d'Allah tout le temps. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, bihamdi, subhanallah al-azim. Toutes ces paroles. Première chose, zikrillah. Wa man wala, est-ce qu'il en suit du zikr? Wa aliman, et un savant, lui il n'est pas maudit, ou muta'alliman, ou quelqu'un qui apprend la religion. Tu dois te retrouver dans ces trois pour ne pas être touché de cette malédiction. Pourquoi la dunya elle est maudite chez Allah? لِأَنَّهَا تُمِيلْ النُّفُوسِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ. La dunya si elle est maudite, c'est parce qu'elle détourne les cœurs de l'obéissance à Allah vers sa désobéissance. Le cœur, si tu le laisses, il aime la facilité. Il aime rester 5 heures devant la télé, boire une canette, manger de la pizza. Il reste comme ça, il fait rien. Il aime servir à rien du tout dans sa vie. Il aime. Et quand tu lui dis, lève-toi, il y a la salat, vas-y, vas-y, tout à l'heure, pas maintenant. Et la fille, bon, va faire la prière. Vas-y, il reste encore 3 heures, de toute façon, l'arche, c'est pas maintenant. وَيْلُوا لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Il y a un fleuve en enfer pour ceux qui retardent la prière sans raison valable. Un fleuve en enfer. Beaucoup de gens pensent que retarder la prière, c'est rien. Ça fait partie de Kabet et Rebunur, les plus grands péchés, de retarder la prière sans raison valable. Il y a l'heure de la prière, cours directement et va prier. Aussi, le prophète sallam dit, Inna Allah ta'ala, parle sallam, Inna Allah kariha lakum thalath. Allah a détesté trois choses. Al-qil wal-qal, le fait de dire, il a dit, elle a dit. Il a dit, on m'a dit. Ça, Allah, il le déteste. Wa kasarat as-su'al, le fait de poser trop de questions inutiles, wa idha'at al-amwal, et le fait de gaspiller son argent. Hein? Bien sûr, ce n'est pas que les choses qu'il déteste, mais dans ce hadith, il a cité ces trois choses-là. Aussi, le prophète sallam dit, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith pardon, bi kulli ma sami'a. Il suffit à l'homme pour être un menteur, de quoi? De dire le mensonge? De dire autre que la vérité? Non, de rapporter tout ce qu'il entend. Mais j'ai entendu un truc, j'ai pas menti, j'ai juste rapporté. Et bien, à force de faire ça, tu deviens un menteur. C'est ce qu'il a dit le prophète en salam. Et le prophète en il a dit, fait partie des bonnes manières du musulman de délaisser ce qui ne le préoccupe pas, ce qui lui est pas utile. C'est pas utile de rapporter ce qu'il a dit lui, de mettre son nez dans toutes les histoires, d'essayer de savoir lui il est parti où, il a mangé où, et hier il est tôt, faut, je sais pas, et il fait une enquête. Mais laisse-toi être tranquille mon frère, laisse-le vivre sa vie, pourquoi t'es là en train de faire une enquête sur lui? Donc la langue. C'est pour ça que le prophète il a dit, qu'Allah Azzawajal a dit, le jeune, il doit qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever sa voix. Il n'élève pas la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, le combat c'est pas la guerre, hein, c'est le provoque, tu vois, parce que si c'est vraiment la guerre, tu vas pas lui dire juste innocent, là tu lui fais la guerre, d'accord? T'as le droit de te défendre. Mais quelqu'un qui t'insulte, qui te provoque, tout ça, la seule chose que tu dois lui répondre c'est innocent, deux fois. Pourquoi deux fois? La première, tu te rappelles à toi déjà. Tu tires le frein à main. C'était là, tu commences chétan, ou peut-être le chétan que tu as réussi à mettre dans ton corps pendant ce mois-là. Alors que normalement, il ne devrait pas y en avoir un, mais toi, tu en as un perso. Tu l'as gardé pour votre secours pour le ramadan. Pendant ce mois-là, direct, dès qu'il commence à dire une mauvaise parole, tu commences à chauffer. Et bien, tiens, frein à main, dis je jeûne. Ça, c'est pour toi. D'accord? Le deuxième frein à main, c'est pour lui, tu le dis, je jeûne. Tu le rappelles à lui, comme tu te l'es rappelé à toi. Vous comprenez? Taï, si quelqu'un t'insulte ou te provoque au combat, qu'il se contente de dire, je suis en état de jeûne. Par celui qui tient l'âme de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa main. La mauvaise haleine du jeûneur est certainement pour Dieu une meilleure odeur que le musc.
L'odeur là que tu supportes pas là. Même quand tu parles avec quelqu'un, tu gardes une distance de sécurité.
Cette odeur chimique qui sort de ta bouche. Le jour du jugement, Allah la préfère à l'odeur du musc. C'est pour ça que les ulama ont dit, celui qui veut se brosser les dents ou tout ça, c'est pas des choses qui sont haram tant que ça n'atteint pas la gorge, mais il est mieux de le délaisser parce que cette odeur, elle est préférée à Allah que l'odeur du musc. Et le jeûneur connaît deux joies. Dans sa vie, il connaît deux joies. La première, quand il rompt son jeûne. Car beaucoup de jeunes ne terminent pas leur jeûne pour cause de mort, de maladie ou autre. C'est une grande joie de terminer une adoration. Et ça fait partie même des cadeaux d'Allah, qu'Allah te facilite de terminer l'adoration. C'est une ni'ma. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيام وصيام. فالجنر يكون يدو جوا. quand il rentre son jeûne, c'est la première joie. dès que tu bois la shorba et tu vois les dates, tu te sens bien. et quand tu mets dans la bouche, ça y est, la première joie tu l'as eu. et la deuxième joie c'est quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. tu te réjouis de ton jeûne, c'est vrai. Subhanallah, quand tu rencontres Allah Azza wa Jal le jour du jugement, t'es heureux d'avoir jeûné, t'es heureux d'avoir accompli tous ces actes-là pour Allah Azza wa Jal. Pourtant, il y a une certaine difficulté quand même quand tu jeûnes, surtout quand t'es à l'école. Et les savants ils disent que le musulman est patient en général. Et le jeûne regroupe les trois patiences qui existent. Al-Ula hiya al-sabr ala ta'atillah. Wa thaniya hiya al-sabr ala ma'asiyatillah. Wa thalitha hiya al-sabr ala aqdarillah. Et ces trois-là, ils se regroupent dans le jeûne du mois de Ramadan. Donc on répète, le jeûne regroupe trois patiences. La première patience, c'est de patienter sur les obligations d'Allah. Allah, il m'a obligé de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas approcher ma femme. D'accord ? Donc je patiente sur le halal. Deuxième chose, je patiente sur le haram. Haram, pareil, je ne l'accomplis pas. Et troisième chose, je patiente sur le destin. C'est pas évident de jeûner quand il fait très très chaud, mais c'est le destin. C'est pas évident de jeûner quand tu conduis toute la journée ou quand tu es en train d'écouter des mathématiques ou de la physique toute la journée. Mais ça fait partie du destin et tout ça, ça se regroupe dans le mois du Ramadan. Ces trois sortes de patience là. Et vous savez, la patience, comme Allah Azza wa Jalla dit, innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Les jeûneurs auront une récompense sans limite. Le jour du jugement. Pardon, pas les jeûneurs, ceux qui patientent. Ceux qui endurent auront une récompense sans limite. C'est-à-dire, plus tu patientes, plus ta récompense elle est sans limite le jour du jugement. Enfin, toute personne qui sent faible, non, moi je suis pas capable, prends ton courage à deux mains et fais des bons pas pendant ce mois-là et sache que c'est l'occasion ou jamais de prendre des nouvelles résolutions. Toi qui tout le temps tu me dis, ouais, mais tu sais, mon frère, moi l'année dernière j'ai jeûné. Là, cette année, je jeûne. L'année avant-dernière, j'ai jeûné. J'ai pas changé, je suis le même. C'est un travail sur toi. C'est un travail sur toi en permanence. C'est pas une fois, deux fois et je baisse les bras. Tu dois travailler une fois, deux fois, trois fois et tu baisses jamais les bras. Et essaye de trouver les moyens qui vont te faciliter de faire un jeûne comme il se doit. Ça y est. Le prophète en nous dit aussi dans le hadith que rapporte Bukhari, dans une autre version, Le jeûneur, il renonce pour moi. Allah, il dit, Allah, le jeûneur, il renonce pour moi à son manger, à son boire et à ses désirs charnels. Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. La bonne action est payée par dix fois sa valeur. Et dans une version de Muslim, toutes les œuvres du fils d'Adam voient se multiplier la valeur de leur salaire. La bonne action est multipliée par 10 à 700 fois. Tu t'imagines? À 700 fois sa valeur. Et Allah il dit, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Taïb. Il faut que l'on apprenne à connaître Allah quand on est bien. Ça y est, il y en a marre de nos habitudes là. Nous, on se rapproche d'Allah que quand on est fatigué, quand on est malade, quand on a des examens, quand je passe mon permis, quand je passe mon bac, quand je passe mon CAP de médecine. Non, il faut que tu apprennes. Ça n'existe pas, CAP de médecine, c'est vrai. Personne n'a fait la marque. Vous avez poussé les études? Donc, il faut que tu apprennes à connaître Allah Azza wa Jal à tout moment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, connais Dieu dans les moments d'aisance, c'est-à-dire dans les moments où tu te sens bien, il te connaîtra dans les moments de détresse. Des fois, quand tu es en difficulté, tu dis, ah, Allah, tu me vois, tu m'entends, sauve-moi. Allah, je n'ai que toi maintenant. Mais tu ne l'as pas connu quand tu étais dans l'errance. Il se peut qu'il prolonge ta difficulté. Et Allah Azzawajal, quand tu le connais, quand tu es bien, tu as la bonne santé, que tu te rapproches beaucoup de lui, dès qu'il t'arrive un problème, directement il y a la sortie de secours. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الترمذي ذا الحديث ديلا كرابورتي بار الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. Ô fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration. C'est qui parle, les frères? C'est Allah. Ô fils d'Adam, soumets-toi à mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse. Quelle richesse? La richesse de la foi. Parce qu'une personne, elle peut se dire, j'adore tout le temps Allah et je suis pauvre. Comment ça se fait? Le prophète, il a dit, laisse le ghina an kathrat al-arad. Innama al-ghina ghina an-nafs. La vraie richesse, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de biens. La vraie richesse, c'est d'avoir la richesse de la foi, du cœur. Il a dit, donc, tafarrar li'ibadati, soumets-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et compenserai ta pauvreté. Le pauvre, subhanallah, regardez dans nos pays, on a des pauvres, surtout de nos familles. Ils sont pauvres. Et malgré ça, ils sont tout le temps là à remercier Allah, ils se sentent très bien, ils ne se plaignent pas. Pourquoi? Ils ont une relation avec Dieu. C'est ce qui les fait patienter et c'est ce qui a compensé justement ce manque qu'ils ont dans le cœur. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne te rapproches pas de moi, si tu ne te soumets pas à moi pour mon adoration là, je t'accablerai de problèmes. Je vais te faire vivre problème sur problème. Et je ne compenserai pas ta pauvreté. Subhanallah. Allah dit, ô vous les hommes, vous êtes des pauvres devant Allah. Allah est celui qui se suffit à soi-même. Allah il n'a pas besoin de nous. Vous pensez qu'Allah il a besoin de notre adoration? C'est nous on a besoin de lui. Bah, pourquoi on l'adore? Parce qu'il mérite d'être adoré. Avec tous les biens qu'il nous a donnés, il mérite le remerciement, il mérite l'adoration. Et il nous a obligés, il nous a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est l'objectif principal de toute personne. Et il est digne de louange. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui réunit deux bonnes actions, c'est-à-dire deux bêtes à sacrifier par exemple, ou deux unités de prière, ou deux jours de jeûne volontaire au service de Dieu, s'entend appelé à partir des portes du paradis. Tu jeûnes deux jours d'affilée, les portes du paradis vont t'appeler. Ouais, mais frère, le paradis, c'est comment le paradis? Je t'en donne un petit peu, des petites descriptions très rapides. Le prophète, on dit dans Sahih Muslim, le dernier à entrer au paradis des musulmans, qu'aura fait, tu vois, le dernier des musulmans à entrer au paradis, c'est celui qui sortira le dernier de l'enfer. C'est-à-dire, catastrophe. Il n'a pas assuré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux avec nous. Comment il est miséricordieux avec nous? Et akhi, déjà, tu ne dois pas poser cette question. Deuxième chose, il est miséricordieux parce que, tu vois, vous avez des examens, je suppose, à l'école. Ce ne serait pas un rêve ou un kiff d'avoir des questions, des examens à l'avance? C'est trop bien, non? Je passe mon BTS, je passe bac plus 3, bac plus 5, bac plus 34. T'aimerais avoir la réponse à vos questions? Ou t'aimerais juste avoir les questions? Juste donne-moi les questions et t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Allah t'a déjà dit dès maintenant, par l'intermédiaire du prophète sallam, les quatre questions qu'on va te poser le jour du jugement. Ah bon? Naam. Rapporté par Ibn Hibban et Tirmidhi. Et les hadiths sont authentifiés par Cheikh l'Albani. Le prophète sallam dit, le jour du jugement, chaque être humain sera questionné sur quatre choses. Sa vie, comment il l'a passée? Sa jeunesse, comment il l'a passé? Pourquoi sa vie et après sa jeunesse? Alors que les deux c'est la même. Parce que là, le prophète Saint veut insister sur la jeunesse. La jeunesse, c'est le moment où vous avez la raison et l'énergie. Tandis que le jeune, plus jeune que vous, l'enfant, il a de l'énergie mais il n'a pas de raison. Et le vieux, il a la raison mais il n'a plus d'énergie, plus de force. Vous regroupez les deux. C'est pour ça la première question c'est ta vie, comment tu l'as passé? La deuxième c'est ta jeunesse, le jeune qui m'entend aujourd'hui, comment t'as passé ta jeunesse? Troisième question, ton argent, d'où tu l'as gagné et où tu l'as dépensé. C'est dur. J'ai gagné dans le halal, alhamdulillah. J'ai dépensé dans le haram, c'est pas bon. Quatrième question, ta science, qu'est-ce que t'en as fait? Ça fait combien de temps t'entends parler d'Allah? Ça fait combien de temps t'es loin d'Allah, tu veux pas t'approcher? Ça fait combien de temps les gens te font des rappels et t'as une oreille de pierre et une autre de boue? Pourquoi jusqu'à maintenant tu refuses? Quatre questions, vous les connaissez maintenant, le jour du jugement vous allez les avoir. Donc ça c'est pas une miséricorde, mais franchement, de connaître à l'avance ces questions, prépare-toi maintenant, c'est un grand examen qui nous attend. Si t'es très motivé là pour ton bac ou pour ton permis, avoir un papier rose et conduire, et ben mon frère, pour une vie éternelle, tu dois être beaucoup plus motivé. Il dit, les portes du paradis vont l'appeler. Dans le hadith de Muslim, le dernier musulman qui sort de l'enfer, Allah va lui dire rentre au paradis. Il va avoir l'impression que le paradis il est rempli. Il va lui dire, ya Allah, comment rentrer au paradis? Il va lui dire rentre au paradis. Il va dire mec. Il va lui sembler que le paradis il est complet, il n'y a plus de place. Il va lui dire entre au paradis. Il va lui dire accepterais-tu d'avoir la vie d'un roi sur terre au paradis? Cet homme-là, le dernier qui sort de l'enfer, va dire quoi? Bien sûr, il y en a. Et comment? Il va lui dire tu as ça. Et plus encore. Et plus encore. Et plus encore. Et plus encore. Et au bout de la cinquième, il lui dit Rabbi, tu auras, ça y est, Allah, cinq fois la vie d'un roi sur terre, c'est bon, j'en suis satisfait. Il lui dit ça, et ça sera multiplié par 10. C'est-à-dire, le dernier à sortir de l'enfer, il aura 50 fois la vie d'un roi sur terre. Regarde la vie d'un roi sur terre, elle est comment? Regarde, les rois, quand ils ont des maisons, des châteaux, pardon, où il y a 250 chambres, des fontaines partout, des chevaux, des piscines, des trucs de fou, comme on dit. Hein? Et ben toi, ça va 50 fois mieux que ça. 50 fois. Et c'est qui celui-là? C'est le dernier. Le dernier. Alors imagine-toi les premiers. Asallallahu subhanahu wa ta'ala nakuna minhum. Et le musulman, comme il a des ambitions dans la dunya, il doit en avoir dans l'au-delà. C'est pas possible que dans la dunya, t'essayes de monter en grade dans ton boulot, t'essayes d'avoir plus d'argent, plus de salaire, une grosse fiche de paye, et dans l'au-delà, non, moi c'est quoi? Juste un deux pièces au paradis, c'est bon. Un studio. 15 mètres carrés, je demande pas plus. Eri, subhanallah, c'est quoi ces conneries là? C'est le paradis, Eri. J'aime la parole à Samawat al-Ard. Tu viens, tu me dis, je veux juste un 15 mètres carrés? Vise! Le Ferdam, c'est l'A'la. Comme le prophète il a dit aux compagnons, si vous demandez le paradis, demandez le Ferdam, c'est l'A'la. Plus au grand niveau de paradis. Le paradis a combien de portes? 8. L'enfer? L'A'la, Sab'atu Abwab. Comme Allah dit, elle a 7 portes l'enfer. Le paradis, il y a 8 portes. Et quand il va arriver dans le paradis, celui qui aura réuni entre deux bonnes actions, comme jeûner deux jours d'affilée, ou faire deux unités de prière ou sacrifier deux bêtes, écoutez bien, regardez un peu les bonnes nouvelles qu'on nous annonce. Les portes du paradis vont dire, oh esclave de Dieu, voilà une bonne chose que tu viens de faire. Celui qui fait partie des pratiquants fervents de la prière, celui qui prie beaucoup, est appelé à partir de la porte de la prière. Il y a une porte, c'est la porte de ceux qui prient beaucoup. Et celui qui fait partie des volontaires fervents de la guerre sainte est appelé à partir de la porte de la guerre. Celui qui faisait partie des pratiquants fervents du jeûne sera appelé d'une porte qui s'appelle Rayyan. Celui qui fait partie des dispensateurs fervents d'aumône, celui qui fait beaucoup d'aumône, est appelé à partir de la porte de l'aumône. Abou Bakr radhiyallahu anhu pose la question au messager de Dieu, que mon père et ma mère te servent de rançon. Il suffit d'être appelé à partir de l'une de ces portes pour être sûr du succès. Une seule porte, ça me suffit, alors ça ne marche pas plusieurs. Est-il possible que quelqu'un soit appelé à partir de toutes les portes à la fois? Il dit oui, et il est bon espoir que tu sois l'un d'eux. Subhanallah. Vous pouvez être appelé par plusieurs portes du paradis. Et chaque porte, elle a des plaisirs et des choses que seul Allah connaît. On n'a pas eu ces descriptions-là, mais on doit y croire. Donc si tu fais beaucoup d'aumônes, tu jeûnes, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire, lundi, jeudi, trois jours lunaires de chaque mois, Arafa, Ashura, ces choses-là, tu vois, eh ben, tu te rapproches de la porte de Rayyan. Si tu es là en train de prier beaucoup de nawafel, surrogatoire, obligatoire, à chaque fois tu fais de rakat, où tu vas, de rakat, bien sûr, pas dans les moments où c'est interdit comme après le fajr, avant le dhuhr d'une période et après la salat al-asr, tu vois,
si tu fais beaucoup de choses comme ça, et ben la porte de la prière elle t'appelle. Et il se peut que toutes les portes se battent pour que tu rentres parmi elles. Toutes. La porte du jeûne, la porte de la bienfaisance envers les parents, la porte de la prière, la porte des aumônes. Donc, il faut se préparer. Et vous savez, le prophète a dit, la meilleure aumône, c'est celle du mois de Ramadan. Afdal sadaqa sadaqa tu Ramadan. Selon Sahl ibn Sa'd, le prophète a dit, l'une des portes du paradis s'appelle Rayyan. C'est par elle que rencontrent les jeûneurs au jour de la résurrection. Nul autre que ne passe par cette porte. On dira alors où sont les jeûneurs. Et les jeûneurs se lèveront de leur tombe. Aucun d'entre eux n'entrera par cette porte. Quand tous les jeûneurs seront passés par cette porte, on la ferme pour que personne ne l'emprunte après eux. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Rayyan, c'est-à-dire le désaltérant. T'as jeûné, t'as eu soif, et ben dedans, tu n'auras plus jamais soif. Dans toutes les portes aussi, mais celle-là, elle est particulière. Particulière aux jeûneurs. Ceux qui ont jeûné pour Allah, le jeûne, le vrai jeûne, pas le jeûne, jeûne zigzag, jeûne moitié-moitié. Le vrai jeûne, cela il sera appelé par la porte de Rayyan, et personne ne rentrera à part de cette porte-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu, Dieu éloigne à cause de ce jour-là son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans. C'est pas un plaisir ça? À chaque fois que tu jeûnes un jour, Allah il éloigne l'enfer de toi d'une distance de 70 ans de marche. Donc, c'est que des récompenses de jeûner. Mais là, je suis en train de parler aussi du vrai jeûne, pas le jeûne zigzag. Aussi, le prophète sallam dit, quand arrive le mois du Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme celles de l'enfer et les démons sont mis au fer. C'est-à-dire, ils sont menottés, ils sont attachés. Donc, normalement, pas de péché pendant le mois du Ramadan. Ouais, mais mon frère, justement, tout à l'heure, je t'ai dit, pendant le Ramadan, je suis un double shaitan. Pendant le Ramadan, je fais des conneries comme si le Ramadan n'était pas venu. Tu sais pourquoi? Parce que le shaitan a réussi à créer en ton être une envie de faire des péchés incroyables. Il n'y a pas que le shaitan qui nous combat. L'imam et chef, il dit, on a quatre ennemis. Le premier, c'est le diable. Ça, on est tous d'accord. Et de toute façon, les quatre, on est tous d'accord. Il n'y a pas de divergence. Le deuxième, c'est ton nefs, ton ego. Al-nafs al-lawama, al-nafs al-ammara bissou, al-nafs. Troisième, c'est les passions. Tes passions. Tu te fais guider par tes passions. À chaque fois qu'il y a un truc, même c'est haram, mes passions, je vais faire ça. Et dernière chose, c'est la dunya. Ce bas monde, il fait partie de nos ennemis. Et combien de fois le prophète Hassan nous a prévenus? Il nous a dit, j'ai pas peur pour vous de la pauvreté, mais j'ai peur que la dunya vous séduise et qu'elle vous fasse périr comme elle a fait périr ceux d'avant nous. Hélas, on a des gens, ils vivent que pour les voitures, d'autres que pour les portables, d'autres que pour les vêtements, des filles que pour parler de trucs là qui mènent dans le village, la peinture, enduit, tout ça là. C'est pas ça? Ah, c'est quoi? Crème fraîche, concombre, carotte, fromage râpé. Ils vivent que pour mettre des trucs comme ça sur leur visage, les filles. Pas toutes, hein. Alhamdoulilah, ceux qui sont en haut, ils se tiennent à carreau. On espère. Et t'as d'autres personnes, ils vivent pour la mode, les parfums, les montres, les stars. T'as regardé un peu sur la lune, Sylvie? T'as vu comment elle est belle maintenant? Je parle d'une Sylvie, de toute façon, il y a toujours une nouvelle fille ou un nouveau gars qui devient un star, que ce soit à l'académie ou autre. C'est vrai ou pas? Et en permanence, on a une personne comme ça qui est à la télé, dans les revues, partout. Celui-là, c'est un beau gosse. Elle est trop belle. Et on entend des paroles, des paroles de conneries. Les vrais beaux gosses, ils sont au paradis. Et les vrais gosses belles, ils sont au paradis. Je n'ai pas ici, il n'y en a pas, mais faut arrêter de chercher les voies du haram. Si tu veux ici te marier, marie-toi. Si tu veux vraiment une fille, marie-toi. Sinon, tu t'abstiens, tu patientes, là-bas, Inch'Allah, comme le prophète a dit, il n'y a pas de célibataire dans le paradis. Il n'y a pas minimum de deux femmes, comme c'est rapporté par Moussi. Minimum. Et Hur'l'Ain, pas Hur'l'Ain, c'est quelque chose de. Après, donc on a dit, tellement le shaitan, il a fait de l'effet sur toi toute l'année, que pendant le mois du Ramadan, il n'a plus besoin de te parler. Non seulement parce qu'il n'est pas là, et deuxième chose parce qu'il sait que tu connais ta route. Tu connais ton chemin. Hein? Il te lève et tu sais directement que tu vas à droite, à gauche, un peu au milieu. Hein, les conneries, les conneries, les conneries. Selon Abdullah ibn Amr, le prophète en fait, m'a dit, le jeûne et le Coran, écoutez bien les frères, et on va terminer avec ce hadith, inshallah, c'est le dernier. Le prophète en fait, m'a dit, le jeûne et le Coran intercèdent en faveur de l'homme le jour du jugement dernier. Le jeûne et le Coran, ils intercèdent. Ça veut dire quoi, ils intercèdent? Ouais, ils sont là, ton piston. Ils t'aident, c'est ton soutien le jour du jugement. Le jeûne et le Coran. Le jeûne, il va dire à Allah, et Allah, je l'ai privé de se nourrir, de se satisfaire des envies pendant le jour, autorise-moi donc à intercéder en sa faveur. Et le second, qui est le Coran, dira, Seigneur, je l'ai privé de sommeil pendant la nuit, ce qu'il disait le Coran, et ça c'est le croyant pendant Ramadan, il doit lire plus la nuit que le jour. Pourquoi? Parce que justement, je le prive de sommeil pendant la nuit, autorise-moi donc à intercéder en sa faveur, alors Dieu leur permettra d'intercéder. Le hadith est rapporté par Ahmed. Donc vous voyez, ces deux-là, ils viennent le jour du jugement, c'est ton piston, hein, ton joker que tu avais caché. Et hop, ça apparaît, alhamdoulilah, le paradis est facilité. Pendant ce mois-là, sachez que chaque jour, il y a un ange qui interpelle tout au long de ce mois et dit « Oh, désire du bien, réjouis-toi. Oh, celui qui veut faire du bien, réjouis-toi. C'est ta saison. C'est les soldes des hasanat. Oh, toi, désire du mal, abstiens-toi. » Ça y est maintenant, il faut que tu t'abstiennes. Et si tu t'abstiens pendant ce mois, essaye, fais l'effort. Fais l'effort de t'abstenir jusqu'à la fin de ta vie, car tu peux mourir à n'importe quel moment, et le prophète a dit, chaque personne sera ressuscitée de la même manière dont elle est morte. Comment tu veux mourir? Ça c'est, je te laisse répondre à toi-même, Inch'Allah, et sache que c'est toi qui choisis ta mort. Si tu vis musulman, tu vis en pleine soumission, tu mourras en pleine soumission, tu seras ressuscité en pleine soumission. Si tu vis en désobéissant à Allah, tu mourras de cette manière-là, et comment tu seras ressuscité le jour du jugement. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا